Alors, encore une question, oui, sur des termes amérindiens, enfin, spirit. Alors, est-ce le grand ordonnateur qu'est Dieu ? Autrement dit, une sorte de grand réservoir d'inconscient collectif, puisque, bon, on parlait de Jung tout à l'heure, une matrice de tous les savoirs et de tous les possibles à la fois, à la différence du grand ordinateur, d'ailleurs, des transhumanistes, qui, lui, est plus quelque chose de technologique, voilà.
Oui, bah Spirit, il est apparu dans un rêve, c'est-à-dire qu'à un moment, j'ai rêvé le dispositif. Et on me dit que c'était des collectifs de conscience Spirit. Moi, je pense que derrière Spirit, c'est le concept jungien du soi. Hein, clairement que Jocelyn va nous parler aussi après, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est à la fois quelque chose d'individuel, c'est quelque chose de collectif, c'est une métamémoire aussi, hein, où on accède, à mon avis, à l'ensemble du savoir de l'espèce, savoir de l'ensemble des espèces, de la vie en général, et même certainement des lois fondamentales de l'univers. Donc c'est le soi, il contient tout. Ce soi, il est unitaire aussi, c'est-à-dire qu'il contient à la fois la psyché et la matière. Donc c'est quelque chose qui est en arrière du monde, quelque chose qui est en dessin certainement, vraiment quoi, mais qui est opératif et communicant, ça c'est clair.
Ce que je peux dire sur l'archétype du soi chez Jung, c'est que c'est l'être réalisé, c'est l'être pleinement réalisé, mais c'est l'être déjà réalisé en fait, qui existe déjà. Dans d'autres analyses, on va parler de l'être intérieur, il y a une correspondance évidente avec l'âme dans le monde chrétien, mais en fait chez Jung, ça se rapprochait davantage du concept d'atman dans l'hindouisme. L'atman dans l'hindouisme, c'est l'équivalent de l'âme, sauf que c'est la même nature que l'absolu. Tout l'hindouisme se résume à ça, atman est brahman. Donc l'individuel collectif est en même temps le collectif absolu. Donc voilà, comprenne qui pourra, mais nous sommes déjà cet absolu, nous sommes déjà une manifestation de cet absolu, mais notre nature profonde est d'être, de procéder de cette unique conscience finalement.
Oui, et d'ailleurs quand vous prenez de l'ayahuasca donc en Amazonie, vous avez accès finalement à cette source ?
Oui, certainement, c'est-à-dire qu'en fait... Dans mon hypothèse de travail, moi, c'est vraiment que l'ayahuasca nous connecte à des métamémoires de l'espèce globale. C'est d'ailleurs pour ça que je dis souvent à des gens qui s'identifient à ces mémoires après des expériences, faites attention. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont en Amazonie, qui font des expériences, qui accèdent à une mémoire qui n'est pas la leur et qui ont tendance tout de suite, en réaction occidentale, de se l'approprier en disant « mais je suis la réincarnation de cette personne ». Non. Parce qu'il y a des gens qui sont revenus avec du coup un bagage un peu négatif en disant « oui, mais moi je me suis vu la réincarnation de quelque chose qui était un peu glauque, une situation un peu triste ou dramatique, et comment je vis ce truc-là, je me sens mal ». Parce que en fait, c'est pas son expérience à la personne, elle a juste été focale à un moment d'une expérience soit de ses ancêtres, soit de sa lignée ou de l'espèce en général, donc il faut être très prudent. Moi j'ai un copain, il a vu sous ayahuasca un dinosaure. Il ne s'est pas considéré comme la réincarnation de ce dinosaure. Voilà, donc à un moment, il faut vraiment prendre ce recul, de se dire, ok, cette expérience, elle nous branche sur la mémoire de la vie, et donc je ne me l'approprie pas forcément. Quoi. C'est très important, ça, je pense.
Peut-on dire que vous vous placez alors, dans le sillage et la continuité des travaux de Jung, en maniant donc ces concepts d'archétype, de rêve, de synchronicité, d'inconscient collectif, et en les confrontant finalement à des tests scientifiques ?
Oui, complètement, bien sûr. On se considère, je pense d'ailleurs Jocelyn va pas me dire le contraire, mais on se considère un peu comme les chanceux héritiers de ces chercheurs, évidemment, de la pensée jungienne. Ça me paraît clair. Et je pense d'ailleurs que Jung et Paoli auraient pu accéder au travail de Philippe, par exemple, sur la rétrocausalité et toutes les recherches qu'on a aujourd'hui aussi sur le chamanisme, sur les expériences visionnaires comme l'ayahuasca. Ils auraient été fascinés. On a repris quelque part là où Jung a arrêté, puisqu'il a fait un symposium vers la fin de sa vie sur les premières expériences visionnaires générées par le LSD. Et il avait écouté tout ce colloque et il a dit une phrase merveilleuse avant de sortir de ce colloque en disant « Je vais ce soir certainement rêver d'expériences que je sais que je ne ferai jamais, mais si on me offrait aujourd'hui une deuxième vie, c'est ce que j'étudierais aujourd'hui. » Voilà. Donc, en fait, là où les Groff ont repris le travail, je pense que Jung se serait intéressé à la dimension psychédélique, très certainement de ces plantes, de ces enseignements. Et vraisemblablement, Pauli aurait réussi à déboucher lui aussi sur la rétrocausalité à travers son travail. Donc, quelque part, on est, je pense, dans un travail d'héritage, de continuité de ce travail. Ouais, ça me paraît clair.
Oui, on peut dire qu'on inscrit nos pas très modestement hein, dans les pas de Jung, parce que c'était un immense chercheur avec une œuvre quand même colossale, gigantesque. Hein, donc très modestement, effectivement, on s'inspire en tout cas beaucoup de ses réflexions. Ce qui est intéressant, c'est que pour lui, le phénomène de la synchronicité, c'était un phénomène justement acausal, dans lequel il n'y avait pas de lien de cause. Il y avait un lien de sens. Nous, ce qu'on propose dans le livre, sur la base, encore une fois, des idées de Romuald, c'est qu'il y a un lien de cause, mais qui est rétro-causal, parce que cette cause vient du futur. Donc c'est ça qui est complètement nouveau. Et en ça, on s'appuie effectivement sur une nouvelle physique, dont Simon Philippe Guillemont est un des représentants, mais c'est pas le seul, évidemment. Et donc, on réintroduit cette notion de causalité via la rétrocausalité, encore une fois. Donc, ça peut paraître complètement farfelu, sauf que, encore une fois, ça repose sur des travaux et des réflexions en physique qui sont extrêmement pointues et solides, quoi. Et Jung l'avait envisagé, cette possibilité qu'il y ait une causalité rétrograde, hein, à propos même de l'épisode du scarabée. Donc, le fameux épisode emblématique de la synchronicité, il estimait que peut-être qu'effectivement, le fait pour la patiente de voir ce scarabée que Jung lui montre dans sa main lors de son entretien avait donc informé, selon le modèle de Romuald, le rêve de manière rétrocausale. Sauf qu'à l'époque de Jung, la notion de rétrocausalité, le fait que la flèche du temps ne soit pas un absolu, quelque chose d'immuable, c'était très très difficile à remettre en question. En fait, ces idées-là avaient été proposées par le physicien français Olivier Costa de Beauregard, qui était un chercheur au CNRS très très réputé dans les années 50. Mais c'était perçu comme complètement farfelu, quoi. À l'époque, c'était pas pris au sérieux. Or, aujourd'hui, grâce à notamment à des expériences de physique quantique, on s'aperçoit que la notion de rétrocausalité est, en tout cas, complètement envisageable, quoi. C'est quelque chose dont on peut discuter, sur lequel on peut spéculer, même si c'est pas complètement validé, hein. Donc, ça ouvre toutes ces perspectives-là, en fait, qui nous permettent, nous, de réinterpréter ces propositions de Jung.
Jocelyn, on va poursuivre avec vous parce que vous évoquez l'importance, donc tous les deux, hein, de la demande. On va parler des dialogues avec l'engin plus exactement. L'importance de la demande, de l'intention, avant d'expérimenter donc cette rétrocognition. Donc, on est proche ici donc du questionnement envers l'ange, tel qu'il est enseigné justement dans le livre Dialogue avec l'ange. C'est-à-dire qu'il faut chauffer la question pour obtenir une réponse et être au meilleur de soi-même. Alors, j'imagine que vous connaissez ce livre, qui est souvent cité d'ailleurs par Philippe Guillemont, et dont certaines idées sont exposées dans ce livre. Voilà.
Oui, oui, les dialogues avec l'ange, c'est une source perpétuelle d'émerveillement pour Philippe et pour moi, et puis pour d'autres aussi, mais c'est un livre d'une grande richesse parce que c'est pas du channeling New Age, hein. C'est un livre d'une force poétique inégalée, voilà, et à l'époque ça avait été salué comme un manifeste poétique radical par Libération. Je veux dire, Libération, c'est pas spécialement un journal tourné vers le transcendant, quoi. Donc c'est vraiment un livre à part, et dans les dialogues avec l'ange, donc l'ange qui peut être perçu comme une métaphore, hein, qui peut être justement le soi de la personne qui fait cette canalisation, l'ange appelle sans cesse à être attentif. Donc non seulement il y a cette notion d'intention, mais il y a la notion d'attention. Et être attentif, ça veut dire que, encore une fois, ça rejoint l'idée que tout est signe dans l'univers, tout nous parle, quoi. L'univers nous parle en permanence, il y a ce sens qui est derrière. Alors est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est autre chose? On ne peut pas répondre à cette question-là. Mais ça n'empêche pas de projeter effectivement ces idées-là là-dessus, quoi. Donc à partir de là, il faut jouer avec cette notion d'intention et d'attention en permanence, encore une fois, dans un non-effort. Et là, c'est une notion qui vient du taoïsme, ça, le non-effort, le non-agir. Parce que c'est déjà là, encore une fois, c'est comme ça que l'univers fonctionne. Donc voilà, je ne peux pas tellement dire plus, mais cette notion d'attention, on la retrouve chez plein d'auteurs, quoi. Même Huxley a écrit là-dessus, Castaneda, Krishnamurti, il disait qu'on devrait vivre en permanence comme si on était enfermé dans une pièce avec un serpent. C'est dire le niveau de vigilance, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on devrait avoir peur, ça devrait dire qu'on devrait être complètement attentif en permanence avec cette exigence de vigilance constante, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'intégrer. Effectivement, en éliminant le facteur peur, se rendre compte de ce que ça peut représenter que d'être dans ce niveau d'attention permanent.
Oui, d'ailleurs, pour reprendre Jésus, il disait « Veillez, car vous ne savez pas à quelle heure viendra la fin ». Alors, pratiquer la rétrocognition est un acte libératoire, dites-vous. Nous avons un pouvoir de co-création sur la réalité, c'est une assurance vie, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et d'ailleurs, vous citez dans votre livre un rêve prémonitoire, puisque vous avez un enfant, vous avez eu avec votre ex-femme, je pense, et vous étiez angoissé à l'idée d'avoir un enfant, et vous avez fait un rêve prémonitoire de cet enfant qui avait 8 ans alors, qui était sain, et ça vous a aidé grandement donc à vivre la grossesse de votre ex-femme, c'est ça. Donc vous allez peut-être nous en parler un petit peu, mais qu'en est-il des « bad trips » entre guillemets? Quand le rêve vire au cauchemar.
Déjà oui, je peux déjà peut-être raconter l'histoire avec mon fils. Moi j'étais très angoissé parce que mon ex-compagne à l'époque avait des gros problèmes d'hypertension. Et donc on nous avait dit que ça ferait une grossesse à risque. Bon, elle avait déjà presque 40 ans. Donc on nous avait mis tous les voyants en rouge, quoi. En gros, on connaît bien les stress des médecins. Donc moi j'étais très angoissé par rapport à ça. Et j'avais quand même assez peur. Donc juste avant la conception en fait de notre enfant, moi j'ai fait un rêve très très fort où en fait j'étais devant un médecin avec ma compagne, un médecin esprit visiblement, et moi j'exprimais toutes mes angoisses par rapport à tout ça, et à un moment le médecin me dit non mais stop, les problèmes de santé, tout ça, moi je gère. Et là, il me pose une question vraiment en lien avec le libre arbitre. Il me pose comme ça, mais la question aujourd'hui, là, c'est pas de savoir la santé, c'est vous en voulez un d'enfant ou pas ? Et moi, ça m'avait scotché dans le rêve, parce que j'étais, c'était une sorte de rêve lucide. Et moi, j'ai dit, bah, bien sûr, tous les deux de concert avec ma compagne, oui, on veut un enfant. Alors lui, il nous dit, ok, donc on va aller le voir. Et là, je me dis, allez le voir, c'est pas possible, il est pas né. Et on nous a emmenés dans un endroit, en fait, où derrière une sorte de membrane vitrée, comme ça, il y avait plein de petits enfants qui jouaient. Et une porte s'est ouverte, à un moment, il y a un petit garçon de 8 ans qui est rentré, qui était encadré par deux personnages, deux entités. Et quand j'ai vu ce petit garçon, que j'ai pu détailler vraiment son physique, j'ai su que c'était mon fils. Il s'est jeté dans mes bras, je me suis jeté dans ses bras, je me suis mis à pleurer. Et je me suis réveillé en pleurs, en fait. Je pleurais dans mon lit et l'émotion était extrêmement forte et elle est restée présente pendant plusieurs jours. Et j'ai eu le sentiment intuitif comme ça de me dire que ce rêve était une prémonition de l'avenir et que ce petit garçon, donc âgé de 8-9 ans dans le rêve, serait mon fils. Et aujourd'hui, effectivement, mon fils ressemble exactement à ce petit bonhomme que j'ai vu. Et c'était très impressionnant parce que dans le processus, je me suis dit, quand on a fait la première échographie, je me suis dit, il va nous dire c'est un garçon. Et il nous a bien dit à l'échographie des 3 mois, oui, c'est un garçon. Et tout s'est mis en place comme ça, et il n'y a eu aucun problème de santé, l'accouchement s'est bien passé, pour ma femme ça s'est bien passé et tout. Donc je me suis dit voilà, et aujourd'hui je constate effectivement que tout s'est bien déroulé, comme ce rêve qui était comme une sorte de programme en fait. Quoi. C'était un rêve prémonitoire en même temps, qui implique pour moi déjà la notion d'un attracteur, c'est-à-dire qu'à un moment, l'être dans l'avenir génère en fait des influences sur le passé, sur son propre passé en fait.
Et alors les cauchemars, les bad trips ?
Alors les bad trips, moi j'ai eu la chance de pas trop en avoir. J'ai eu des cauchemars dans ma vie, ils ne sont pas réalisés. Donc,
parmi ceux qui, éventuellement, vous parliez en Amazonie, qui ont fait des...
Mais ça c'est encore une autre expérience, ouais. Parce que dans l'expérience visionnaire, quand on fait souvent des bad trips, c'est parce que c'est un peu comme dans le bar d'Autodol, on a les premiers niveaux où en fait la peur se manifeste, et comme on a peur d'avoir peur, ça fait un effet catalytique, et donc du coup on a encore plus peur, et ça génère encore plus de visions obscures, et quand on prend conscience que tout ça c'est nous qui le créons, ça s'évapore très vite, c'est comme une brume qui va se dissiper, et hop, on accède à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc je pense qu'il faut, même si on fait un cauchemar et qu'on se dit « Oh mon Dieu, j'espère qu'il ne va pas se réaliser », il faut faire agir son libre arbitre et reposer une intention positive par rapport à ce rêve, je pense vraiment. Quoi.
Oui, dans le processus jungien, de ce qu'il appelle l'individuation, donc devenir un individu relié, donc c'est le contraire de l'individualisation qui devient un individu coupé. Hein. La première phase, c'est la confrontation à ce qu'il appelle l'ombre. Donc l'ombre, c'est tout ce qui est irrésolu, tout ce qui n'est pas intégré, tout ce qui est de l'ordre de la peur, notamment, hein, et qui est projeté. Et on retrouve ça dans l'expérience de mort imminente aussi. Des gens qui vivent une expérience de mort imminente, aujourd'hui, on a beaucoup plus de récits où, en fait, la première phase, c'est une phase de terreur. Ils sont perdus, ils ont l'impression que pour l'éternité, ils vont être dans le néant, et ils se confrontent à des figures éventuellement monstrueuses, etc., avant de voir la lumière, de passer dans le tunnel, et puis de voir des choses qui sont plutôt de l'ordre de l'angélique, du paradisiaque, etc. Donc cette confrontation avec l'ombre, que c'est un passage obligé, quoi. Chez Jung, c'est un passage obligé, donc c'est par les rêves, par les visions, etc. L'expérience psychédélique, elle reproduit ça. Elle reproduit à travers plusieurs expériences, pas en une seule, ça peut être en une seule, mais j'imagine que c'est plutôt sur la durée. Elle reproduit cette confrontation avec les différents archétypes, dont le premier est l'ombre. Hein. Ensuite, on se confronte à l'archétype de l'animal, l'animus, etc., la lumière, pour arriver au soi. Hein. Donc le but de l'individuation étant d'intégrer le soi. Donc les bad trips, à mon avis, c'est ça, on projette l'ombre parce qu'on doit se confronter à ça. Et la peur, c'est le premier élément constitutif de cette ombre.
Oui, encore une fois, donc tout est lié, on le voit. Vous rêvez dans votre livre d'une rétrocognition thérapeutique, puisque en fait c'est l'aboutissement, on va dire collectif, de votre théorie. Vous souhaitez que ça serve finalement à l'humanité, et ça c'est un bienfait. Mais donc vous rêvez d'une rétrocognition thérapeutique, d'une synchromédecine, vous dites, avec des thérapeutes qui seraient formés donc à la rétrocognition et des collectifs de fixation de l'intention du patient. Est-ce que vous avez des informations futures à ce sujet ?
Oui, là on est sur un sujet qui est quand même celui de la santé, donc je préfère toujours être extrêmement prudent. On est encore largement dans le théorique, mais il y a quand même effectivement des choses qui sont en train de se mettre en place. Hein. On réfléchit à des protocoles, à des choses, bien sûr. Pour l'instant, je pense que c'est trop prématuré pour pouvoir tirer des conclusions ou même en parler. Mais c'est un champ qui n'est pas vain, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est investi, on y travaille. On va dire qu'on y travaille, voilà.
Oui, parce que pour l'instant, donc là où vous en êtes, c'est que vous animez des ateliers depuis quelques mois ou quelques années, et ça marche plutôt bien.
Alors les ateliers sont pas des ateliers thérapeutiques, hein. Ce sont des ateliers qu'on fait depuis l'année dernière. On n'en fait pas beaucoup parce que On ne veut pas rentrer dans une dynamique astreignante d'ailleurs. Moi, je n'ai pas envie de faire ça tout le temps. Et puis, je préfère faire du qualitatif et donc de faire pas beaucoup d'ateliers. C'est des ateliers sur la journée où on essaye effectivement d'apprendre aux gens le processus de rétrocognition, simplement, hein, pour eux, personnellement, dans leur vie, pour le pratiquer et puis pour pouvoir prendre des décisions dans leur vie de façon plus en conscience. Voilà. Donc, c'est ça le but des ateliers. Et on va dire que 90% des gens qui viennent pratiquer arrivent très vite à produire le phénomène, parce que de toute façon, pour moi, c'est une aptitude qu'on a tous, hein. Donc c'est vraiment accessible à n'importe qui. Et on les a fait dans un premier temps, même pour avoir, nous, un retour expérimental, c'est-à-dire de savoir est-ce que d'autres personnes sont capables de produire ces synchronicités et à quelle mesure, au niveau statistique et tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que nous, on a fait ce travail, et aussi de créer des groupes, en fait, ensuite de rétrocognition, pour voir si aussi il y avait une influence sur les synchronicités des uns et des autres lorsqu'elles passent dans le domaine du collectif. Et ça, c'est ce qu'on a pu constater aussi. Il y a un renforcement de l'intention et de l'objectif aussi réalisé. Donc, quelque part, les ateliers, c'était vraiment quelque chose d'expérimental, vraiment, quoi. Voilà.
Alors, donc, une dernière question, vous concernant peut-être plus Romuald. J'aurais aimé savoir quelles avaient été vos principales leçons en immersion dans la jungle. Enfin, qu'est-ce que vous en avez tiré vraiment de, outre cet aspect théorique, pour votre vie?
Mais moi, j'étais très, très cartésien. Donc, quand je suis arrivé en Amazonie, je ne croyais pas trop aux esprits, tout ça. Quand j'étais ado, moi, la vie après la mort, ça me faisait flipper. J'avais peur, en fait. J'aurais préféré, mais à un moment, je pense qu'il n'y ait rien. Le néant étant plus sécuritaire que quelque chose, peut-être. Je pensais ça. Donc, je m'étais vraiment mis dans le matérialisme. Et puis, j'ai eu quelques décès dans ma famille quand j'étais jeune. Je me suis dit, il n'y a rien, c'est pas possible, quoi, que des trucs comme ça arrivent. Donc une certaine frustration par rapport à la perte d'être cher. Et donc j'étais très matérialiste. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai pris la claque de ma vie, quoi. Parce que là, j'étais bien obligé de me rendre compte que ce monde visionnaire a une réalité autonome. C'est pas des délires, des déformations de la perception. J'ai vécu des expériences de vision collective, inexplicables aujourd'hui par le paradigme matérialiste, au niveau de la psychologie, par exemple, et des sciences cognitives. Donc inexplicable, j'ai pu percevoir aussi les capacités paranormales des chamans, c'est-à-dire leur capacité à aller chercher de l'information dans l'avenir, leur capacité même des fois de psychokinèse, de guérison aussi, des choses quand même que mon paradigme matérialiste ne pouvait pas expliquer clairement, quoi. Donc ça a été une remise en cause complète de mon système de pensée, ça c'est clair.
Et vous, Jocelyn, donc, vous avez écrit un livre, je pense, sur la vie après la mort. Pareil, quelle est votre ouverture par rapport à ça?
Oui, moi, en fait, le sujet des expériences de mort imminente, ça a été mon premier thème d'intérêt. Et moi, c'était pareil, j'étais très cartésien, très matérialiste. Je sortais d'études de sciences, parce que je voulais être prof de sciences à l'époque, avant de me tourner vers le journalisme. Et donc, le phénomène de l'expérience de mort imminente a été aussi une claque, pareil, qui m'a complètement déstabilisé, qui a remis en cause ma vision du monde, quoi. Et du coup, j'étais stupéfait, en fait, par les témoignages de gens qui avaient frôlé la mort. Et je me disais, on peut pas inventer une chose pareille, quoi. Si on voulait faire croire à des choses, on raconterait des choses plus simples, plus crédibles, en fait. Donc le côté extraordinaire de ces témoignages m'a fait tout de suite adhérer au fait qu'il y avait quelque chose derrière. C'est-à-dire pas forcément la preuve de la vie après la mort, hein, mais en tout cas qu'il y avait du sens, quoi, à chercher dans ces expériences-là. Donc je me suis passionné pour ces expériences, et de là, je me suis intéressé à tout ce qui est un peu connexe, justement, qui relève de la parapsychologie, la voyance, tout ce qui est télépathie, psychokinèse, ce genre de choses, parce qu'il y a des témoignages aussi qui font état de phénomènes comme ça. Donc c'était lié, en quelque sorte. Et donc j'ai rencontré plein de témoins, j'ai rencontré plein de chercheurs, médecins, scientifiques, etc., physiciens, ou même des philosophes qui s'intéressent à tout ça. Et depuis, je n'ai jamais cessé de m'intéresser à ce sujet, quoi. C'est-à-dire, ça fait plus de 20 ans, et je continue d'y trouver des enseignements, en fait, en permanence, hein. Quand on lit un témoignage d'expérience de mort imminente, on peut toujours le relire, on va toujours y trouver des nouvelles choses, en fait, sur lesquelles on est passé, parce que les témoins ont les mots ou pas. C'est-à-dire, selon leur background, selon leur éducation, ils ont plus ou moins de difficultés à raconter ça, parce que de toute façon, ça parle de quelque chose qui est au-delà de notre matérialité. Donc, en principe, déjà, ils n'ont pas les mots à la base. Donc, ils finissent par trouver des manières de formuler les choses, par des périphrases, par des métaphores, etc. Et du coup, il y a toujours beaucoup de sens à trouver dans la façon dont ils disent les choses, à y retrouver quand on y revient. Donc je continue d'être fasciné par ce phénomène, ouais. Et puis ça boucle effectivement avec les cosmogonies primordiales, des peuples premiers, etc. Et avec la physique moderne, parce que je reste un journaliste scientifique, parce que j'ai une formation scientifique à la base, et je reste un amoureux de la science, quoi. Donc moi, j'essaye de faire cette synthèse, en fait, modestement, avec la spiritualité, la philosophie, la science, les enseignements primordiaux. Donc c'est complexe et c'est un peu peut-être ambitieux, mais voilà, je suis un généraliste, moi, je suis pas un expert, hein, je suis pas un spécialiste. Donc justement, le problème de la connaissance aujourd'hui, c'est que les gens sont beaucoup dans des silos, quoi. Ils sont enfermés dans des domaines de connaissances où ils ne savent pas ce qui se passe ailleurs, ils n'arrivent pas à faire la synthèse. Donc il y a besoin de gens, je pense, comme moi, hein, en toute modestie, pour essayer de faire des synthèses, quoi. Voilà, donc c'est ce que j'essaye de faire.
Donc c'est une ouverture à l'invisible, hein, pour vous deux. Et c'est formidable. Donc on rappelle le livre « Se souvenir du futur », édition Très Daniel, voilà, qui est disponible dans toutes les librairies. Et donc, on vous souhaite bon vent.